Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du cinéma. Les salles rouvrent enfin en ce mercredi 19 mai après plus de 6 mois de fermeture, pas forcément justifiée. Plus de 400 films attendent sur les étagères des distributeurs, ce qui augure d'un certain encombrement. Et au milieu de ce grand embouteillage, les films les plus fragiles risquent de pâtir de cette situation. Thank you. C'était la musique de Good Morning Babylonia, un film réalisé en 1987 par Vittorio et Paolo Taviani, qui raconte le destin de deux frères venus à Hollywood faire fortune et qui se retrouvent à travailler sur les décors d'Intolérance, le film de David Wark Griffiths. Il me semblait opportun d'ouvrir cette émission sur la musique de ce film, qui est composée par Nicola Piovani, pour marquer la réouverture des salles après cette fermeture historique de 6 mois. Et avant de passer à l'actualité des sorties salles, mais aussi DVD et BR, voici un autre clin d'œil avec la musique de Cinema Paradiso, un film de Giuseppe Tornatore qui narre l'amitié entre un projectionniste incarné par Philippe Noiret et un jeune garçon. Le réalisateur conçoit son film comme un hommage aux petites salles de quartier et à l'industrie du cinéma en général. La musique est bien évidemment signée par le grand Ennio Morricone. Cette deuxième quinzaine du mois de mai voit surtout des ressorties de films qui n'ont eu droit qu'à une courte vie dans les salles, parfois de 2 jours seulement pour ceux qui sont sortis le mercredi précédant le confinement, ou au mieux 1 ou 2 semaines. Parmi eux, on peut trouver le césarisé Adieu les cons d'Albert Dupontel, Drunk de Thomas Vinterberg, Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky, ou encore le film d'animation Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet. J'ai plutôt en détestation le cinéma d'Albert Dupontel, qui fait rarement dans la finesse, et ce n'est pas cet Adieu les cons dont le prétentieux titre manifeste crache ouvertement au visage du spectateur, car les cons, c'est vous, c'est moi, etc., c'est nous. Et ce titre ne va pas me prouver le contraire de ce que je pense du cinéma d'Albert Dupontel. En plus de donner dans les symboles lourdeaux, les séquences clichés, l'émotion en toc, Albert Dupontel fait dans la poésie CAC 40, dans un final douteux qui semble plus être en accord avec l'idéologie financière d'Emmanuel Macron qu'un réel pamphlet anarchiste. Le film vaut le coup d'œil pour Virginie Efira, qui s'avère particulièrement émouvante en jeune femme condamnée par la maladie. Croyant naïvement à une réouverture pour les fêtes de fin d'année 2020, j'avais évoqué plusieurs films prévus à cette période, dont Sainte Maude de Rose Glass, un film d'horreur britannique, à l'ambiance paranoïaque entre L'Exorciste de William Friedkin et Répulsion de Roman Polanski. Victime de la crise, le film ne sortira pas dans les salles et sera directement diffusé sur Canal+. Ce qui est bien dommage car il mérite d'être découvert sur grand écran, certaines images étant particulièrement marquantes. On peut largement préférer au film d'Albert Dupontel le portrait de Michel-Ange par Andrei Kanchalovski qui recrée avec un certain réalisme l'époque de l'artiste, le 15e siècle. Le cinéaste russe dresse un portrait peu flatteur du sculpteur, peintre et architecte qui n'hésitait pas à intriguer pour arriver à ses fins. En même temps, intrigue et trahison semblaient être monnaie courante en ces temps où l'administration religieuse faisait la loi de manière pas toujours avouable. Andrei Kanchalovski, à contre-courant, opte pour un format 4 tiers pour conter l'histoire de ce petit homme pingre et combinard et livre une réflexion sur la création, sur la liberté de l'artiste au service d'une administration. Michel-Ange, coproduction entre l'Italie et la Russie, est une œuvre violente et forte, traversée par le souffle de l'histoire.
Tutti ammirano il vostro lavoro, dicono divino. Migliore di Raffaello, migliore di Leonardo. Siete il migliore.
Michelangelo. Divino.
Io non ho limite. Sono incapace di controllarvi. Andate via! Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze.
Non merito queste creature. Sono un vecchio mostro.
Mostro!
Te sei soltanto un vigliacco. Te la gente la disprezzi. Tu non hai mai parlato bene di nessuno.
Tutta questa bellezza per i puttanieri, tiranni e assassini.
Volevo trovare Dio, ma ho trovato soltanto l'uomo.
Credevo di andare verso Dio come hai fatto tu, ma in realtà me ne allontanavo, sempre di più.
Le 19 mai ressort également Joseph, un autre film, cette fois d'animation, sur la création. Réalisé par Aurel, Joseph a reçu le César du meilleur film d'animation, donc cette année. Dans un style impressionniste, il raconte l'histoire vraie de Joseph Bartoli, combattant antifranquiste, de sa fuite de l'Espagne de Franco, de son internement dans des camps dans le sud de la France, mais surtout de son désir de dessiner. Il s'agit d'un premier long métrage pour Aurel, qui est auteur de bande dessinée, qui avait déjà co-signé avec Florence Corr un court métrage d'animation Octobre Noir, qui évoque donc le 17 octobre 1961. Toujours dans cette émission de 2020, j'avais évoqué Mandibule de Quentin Dupieux et Il mio corpo de Michele Pennetta. Mandibule sort donc le 19 mai. Avec cette étrange histoire des mouches géantes, Quentin Dupieux reste fidèle à son univers décalé, avec lequel il déclare son amour pour les marginaux. Jean-Gab et Manu, deux amis pas très malins, sont chargés de livrer une mystérieuse mallette. Pour ce faire, ils volent une voiture dans le coffre de laquelle ils trouvent une mouche géante. Les deux amis se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. Quentin Dupieux signe une sorte de road movie complètement autre, aux côtés de ces deux personnages qui semblent vivre sur une autre planète, bien loin de la réalité qui est la nôtre. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer un ermite qui prend les traits de Bruno Locher et un groupe d'amis dont une jeune femme croit voir en l'un des deux complices un ami d'enfance. Les quiproquos et les situations étranges vont donc s'enchaîner. Quentin Dupieux multiplie les clins d'œil et joue avec les codes du film de gangster, du film d'horreur, multiplie les fausses pistes, installe des atmosphères tantôt inquiétantes, tantôt drôles, mais il arrive toujours à faire adhérer le spectateur à cette histoire de mouche géante. Sous la farce, le cinéaste convoque les thèmes qui traversent son cinéma, comme la place de l'individu dans le groupe, la marginalisation ou encore le rapport de classe. Seulement, il arrive à les traiter avec légèreté et bienveillance, la parodie ne donnant jamais dans la blague facile et mesquine. Tout en étant hors du temps, son film touche des thèmes d'actualité tout en distance et en dérision. Mandibule semble dire qu'il ne faut pas prendre le monde trop au sérieux, qu'il vaut mieux prendre les choses avec détachement et humour à travers ces deux personnages un peu simplés, un peu paumés que sont Jean Gab et Manu, deux personnages qui savent pourtant prendre les choses avec une certaine philosophie. Nous passons maintenant au 26 mai. Donc le 26 mai, nous allons en décontrer un peu plus éloigné, si tant est que celle de Mandibule ne l'est pas par l'univers que développe son réalisateur. Pour nous rendre d'abord en Sicile avec un documentaire de Michele Pennetta, Il mio corpo. Le réalisateur suit deux jeunes hommes que tout semble opposé au premier abord. Dans un montage en parallèle, il filme Oscar, qui récupère de la ferraille avec son père, et Stanley, un jeune Nigérian sans papier qui vivote de petits boulots. Pour un documentaire, on voit que c'est très écrit, à se demander même dans quelle mesure certaines séquences ne sont pas mises en scène. Cela est flagrant à la fin du film quand les deux protagonistes se rencontrent enfin. Michele Pennetta tente bien de donner un sentiment de filmage sur le vif avec sa caméra à l'épaule, ses cadres qui bougent sans cesse pour faire réaliste, mais on a rarement la sensation d'assister à des plans volés. Bien sûr, il y a quelques passages qui sonnent plus vrais, comme la fête à laquelle se rend Stanley, et où les invités semblent avoir oublié la présence de la caméra, mais presque tout le reste du film manque de spontanéité. Malgré sa caméra à l'épaule, les cadres sont travaillés, la lumière est superbe, mais le documentaire donne avant tout l'impression d'être devant une fiction. On sent la volonté du réalisateur, avec son montage en parallèle, de dresser le portrait d'une jeunesse, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, qui aspire à quelque chose de meilleur, qui essaie de se sortir d'une situation difficile. Si le côté universaliste de ce point de vue est défendable, la maladresse du film réside dans le fait que le réalisateur place ces deux personnages sur un même plan. Or, il se trouve que le Nigeria est un pays difficile, bien plus que la Sicile, et que les deux jeunes hommes n'ont pas forcément vécu les mêmes choses, même si leurs désirs sont semblables. Malgré l'intérêt qu'il suscite, Il mio corpo déroute, ne fait qu'effleurer son sujet, donne l'impression de ne pas trop savoir où aller sans qu'il soit dénué de qualité ou de scènes intéressantes. Nous allons un petit peu plus loin que la Sicile, mais nous restons à la date du 26 mai avec Balloon de Pemat Seden, film qui a été programmé au Festival International du Film d'Amiens en 2019. J'avoue que le film m'a laissé peu de traces, hein, peu de souvenirs. Donc c'est au cœur des étendues tibétaines, Drolka et son mari élèvent des brebis tout en veillant sur leurs trois fils. Et en réaction à la politique de l'enfant unique imposée par Pékin, Drolka décide en secret de s'initier à la contraception. Voilà. Qui est une pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve des préservatifs qu'elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux, et le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les ballons volés sous son oreiller, Drolka sait aussitôt qu'elle va devoir tout affronter, le reproche des aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes, et une naissance à venir. La réalisation de Pemat Seden navigue entre poésie et réalisme, un réalisme encore une fois souligné par une caméra à l'épaule pour bien signifier l'aspect social du film, mais avec quand même une assez belle direction de la photographie légèrement surexposée lors de certaines scènes. Donc Balloon sort le 26 mai dans les salles. Vous êtes toujours à l'écoute du cinéma et je vais maintenant évoquer quelques sorties DVD-BR des films édités par Tamasa, avec tout d'abord un petit détour par l'Italie. Les gros veaux. Ainsi se traduit le titre du troisième long-métrage de Federico Fellini, I Vitelloni. Jusqu'à 8,5 en 1963, le cinéaste italien fait dans un cinéma plus narratif, plus ancré dans le social. I Vitelloni s'attache à suivre une bande d'amis dans une petite ville italienne, des jeunes hommes de 30 ans qui glandent, ne veulent visiblement pas grandir et prendre leurs responsabilités. Issus de la petite bourgeoisie, ils passent leur temps à zoner dans les quartiers de la ville, refusant de travailler. Pour certains, partir de cette petite ville où il ne se passe pas grand-chose serait la meilleure solution. Pourtant, ils ont bien du mal à franchir le pas. Parmi eux, Moraldo, le personnage principal du film, a mis enceinte sa petite amie et se voit dans l'obligation de se marier avec. Seulement, le jeune homme ne peut s'empêcher d'aller séduire d'autres femmes, jusqu'à la femme de son patron dans la boutique où il a réussi à se faire embaucher. Et, tandis que ses quatre autres amis se contentent de se laisser vivre, de le voir faire ses frasques. L'autre film édité par Tamasa est Les Nuits de Cabiria, que Federico Fellini réalise 4 ans plus tard, en 1957. Encore une fois, le film est ancré dans le social en suivant le parcours d'une jeune prostituée à Rome. Une jeune prostituée qui est incarnée, qui s'appelle Cabiria, qui est incarnée par Giulietta Masséna. Les deux films se partagent entre le drame et la comédie, et malgré ce point de vue réaliste, une trame plutôt plus narrative que les films suivants du cinéaste italien propose tout de même quelques échappées poétiques dans la façon dont il met notamment les fêtes dans I Vitelloni ou d'approcher la thématique du religieux. Surtout, Fellini filme avec humour et tendresse les plus précaires, les marginaux, arrivent à rendre compte de la misère de l'époque à Rome lors d'une scène qui fut censurée par les autorités religieuses dans laquelle on peut voir un homme laïque venir en aide aux plus démunis. Pour l'Église, le fait que ce soit un homme laïque, c'était perturbant, donc ils ont voulu faire censurer cette scène. Dans les deux films, le réalisateur s'attaque aussi au machisme, dénonce le virilisme. D'ailleurs, de ce côté, Les Nuits de Cabiria s'avèrent particulièrement cruelles dans une séquence assez dure. Fellini filme des femmes qui se battent, qui vont de l'avant, et des hommes fragiles. Même quand il s'agit de mettre en scène le plus immonde des salauds, il fait preuve de compassion ou alors il les tourne en dérision. Avec Les Nuits de Cabiria, il propose un portrait à la fois drôle et grave, rempli de fantaisie et dénué des misérabilismes de la prostitution. Il arrive à aborder un sujet grave avec une certaine légèreté, aidé par la façon dont il dépeint les jeunes femmes qui s'y adonnent, sans aucune condescendance. Pourtant, la fragilité de leur situation est bien là, à l'écran, mais jamais le réalisateur ne s'apitoie, préférant signer une œuvre qui oscille entre le désir et le désespoir. We'll be right back. Toujours chez Tamasa, la dérobade aborde le même thème, mais de façon beaucoup plus crue et dure. Daniel Duval, acteur et réalisateur, adapte en 1979 un récit autobiographique de Jeanne Cordelier. Réalisateur de quelques épisodes de Série Noire, Défraction, un polar avec Jacques Villeray, Daniel Duval jouait souvent des seconds rôles et on a pu le voir dans Le Bar du Téléphone de Claude Barrois, dans le remake du Deuxième Souffle d'Alain Corneau ou dans des séries comme Mafiosa et Engrenage. Avec La Dérobade, il signe un film très noir dans lequel il s'est donné un rôle difficile, celui du Mac de Marie, la jeune femme incarnée par Miu Miu. Marie est donc une jeune femme issue du milieu ouvrier et elle rencontre Gérard, un brin ténébreux qui l'incite à se prostituer. Marie va connaître les méandres de la prostitution, ses règles et sa violence, de bordel en hôtel de passe. Avec son amie Malou, jouée par Maria Schneider, elle va découvrir qu'il est difficile d'être indépendante dans son milieu, qu'il est aussi difficile d'en sortir. Daniel Duval aborde son sujet sans concession ou complaisance, le film ne tombant jamais dans la facilité. Il dépeint un milieu dur, où les coups bas sont fréquents pour manipuler les jeunes femmes, où les règlements de compte se font via l'argent ou par des humiliations. Le réalisateur joue la carte du réalisme et certaines séquences s'avèrent particulièrement dures. Si le film est violent, il met en évidence la complexité des rapports entre les prostituées et les clients, entre les prostituées et leurs macs eux-mêmes. Daniel Duval condamne avant tout un système que des individus, cela se présentant plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Dans ce monde régi par l'argent, il montre des solitudes, des demandes d'amour désespérées. La Dérobade, tout comme les deux films de Fellini, est un film sur l'errance, sur la recherche d'une identité et d'un but difficile à atteindre. La musique pour La Dérobade, qui est signée Vladimir Cosma, apporte d'ailleurs un contrepoint à ces images sordides, avec son thème à la tonalité mélancolique qui évoque une berceuse. Teloni, Les Nuits de Cabiret à La Dérobade sont disponibles en Blu-ray et DVD chez Tamasa et sont à redécouvrir dans très belles copies qui rendent justice au film. C'est tout pour aujourd'hui, ce petit mois de mai en ce qui concerne les sorties cinéma et DVD BR, et vous étiez à l'écoute du cinéma. Vous pouvez écrire à l'émission à cette adresse loup-garou-picard tout attaché @gmail.com. Bon retour dans les salles obscures et à la prochaine.